C'est aujourd'hui que nous célébrons la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Donc, ce traité, voire ce moment historique, a été très associé à Lord Axworthy de l'ancien gouvernement libéral au fédéral, mais aussi, rappelons-le, c'est très important, au nécessaire organisme Handicap International Canada. Donc, nous avons avec nous Jérôme Bobin, qui est directeur de l'organisme et qui est en direct de la capitale canadienne. Bonjour, Jérôme.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être là. En fait, c'est une journée assez déterminante, non seulement pour votre organisme, pour le Canada, mais aussi pour tout le monde, j'oserais dire. Vous êtes à Ottawa pour les 20 ans de la Convention d'Ottawa, c'est bien ça?
Oui, en effet. D'ailleurs, je m'excuse pour le son. Le son n'est peut-être pas très bon parce qu'on est en effet à une conférence qui vise à célébrer les 20 ans de ce traité, donc ce traité qui a été ouvert à la signature en 1997, ici à Ottawa, et qui a été une vraie victoire contre les armes, contre la barbarie des armes qui faisait énormément de victimes à travers la planète à cette époque, et qui est vraiment une initiative conjointe du gouvernement canadien de l'époque et de la société civile internationale, dont Handicap International, mais d'autres organisations humanitaires aussi.
Mais il faut quand même vous remercier. Rappelons que c'est une campagne déterminante, très importante pour votre organisation. Bravo, je dois vous dire, vous êtes là pas pour rien, vous êtes nécessaire, bravo.
Merci. Il faut dire qu'on a gagné ce combat contre les mines antipersonnelles avec l'appui de la population, en fait, de tous les pays dans lesquels on intervient. Parce qu'à l'époque, 20 ans en arrière, 20-25 ans en arrière, on a réussi à mobiliser les gens pour qu'ils s'engagent et qu'ils demandent à leurs États, à leurs dirigeants politiques, d'interdire ces armes qui faisaient à l'époque près de 30 000 victimes par année.
Ah oui, c'est très important, il faut le savoir. Puis vous avez réussi, évidemment, le gouvernement canadien, les Nations Unies éventuellement, à rallier 160 pays. Ils se sont engagés dans ce traité qui proposait quoi, en fait, à l'époque? Et encore aujourd'hui?
Alors, il est très simple. Hein. Il propose tout simplement d'interdire la fabrication, l'usage, l'utilisation, le commerce des mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles, c'est des petits explosifs que beaucoup de pays dans le passé ont utilisés, ont mis dans les territoires pour éviter l'accès ou pour éviter de fuir d'un territoire. Et puis, à une époque, c'était devenu tellement un fléau qu'une victime toutes les 20 minutes explosait sur ces armes-là. Et puis, le principe de ces armes, c'est que ça ne tue pas. Ça fait des personnes amputées et donc des personnes nouvellement handicapées. Et donc, ça fait peser tout un travail et des soins de santé, des soins d'accompagnement sociaux importants sur la société qui est touchée par ces mines antipersonnelles.
Mais avouons quand même que vous êtes contre les bombardements de manière générale, mais évidemment, les mines antipersonnelles, comme vous le dites, ont causé du handicap partout dans le monde. Est-ce que le Canada, à l'époque... en fait, comment a réussi ce tour de force, le Canada, à l'époque?
Alors, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, vous le citiez tout à l'heure en introduction, Lloyd Axworthy, en fait, a décidé d'aller de l'avant, même si les gros États, les gros pays n'étaient pas, ne l'accompagnaient pas. Donc, il a plutôt pris une stratégie de réunir les petits et moyens États autour d'une vraie ambition de sauver des vies. Et puis, il s'est dit, ceux qui viendront nous joindre quand ils le pourront, quand ils le voudront. Et ça a été gagnant, parce que du coup, ça a fait que on a eu beaucoup d'États qui ont pu signer ce traité et qui l'ont rendu finalement efficace sur le terrain, parce qu'il y a eu très peu de fuites d'utilisation de nouvelles mines antipersonnelles.
Donc, ça a fonctionné en quelque sorte. Cette convention-là a réellement convaincu des pays de ne plus produire ou soutenir la production de mines antipersonnelles.
Oui, elle a tellement bien fonctionné que quelques années après, on a renouvelé l'opération avec le traité contre les sous-munitions. Donc, c'est un autre type d'arme. Les armes, vous parlez des bombardements explosifs, c'est un peu ça. C'est des obus qu'on tire par des avions ou qu'on tire de l'artillerie et qui libèrent tout un tas de petites bombes explosives et qui ont le même effet finalement que des mines antipersonnelles. Donc, le traité d'Ottawa a servi d'exemple aux autres traités de désarmement qui ont suivi derrière.
C'est heureux au moins que ça fait école. C'est sûr que vous le dites, là, le problème de toutes ces bombes, en général, les bombes, c'est un problème, mais le problème de toutes ces bombes, c'est que ça touche les sociétés civiles, les civils. Et je sais que vous menez actuellement des actions, notamment en Colombie. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage, Jérôme Bobin?
Oui, ça fait depuis 1998 qu'on est actif en Colombie. Et d'ailleurs, justement, je suis aujourd'hui à Ottawa à la conférence avec une survivante de mine antipersonnelle qui nous vient de Colombie et qui est venue témoigner de sa situation. Donc, notre activité en Colombie, elle est diverse, mais elle se consacre sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Mm-hmm. Beaucoup les victimes de mines antipersonnelles, mais pas seulement. Et avec des soins de réadaptation physique, des réadaptations fonctionnelles, mais aussi l'accompagnement psychosocial, des groupes de parole pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur nouvelle vie, finalement, et dans leur redonner les moyens de pouvoir participer comme il faut à la société.
Parce qu'on a souvent l'impression, tristement, que la participation sociale ou la réadaptation, j'oserais dire, vers la participation sociale, ça existe juste dans les pays riches, c'est un luxe, au fond.
C'est presque comme ça qu'on le voit. Considérer, mais en tous les cas, c'est très important, y compris dans nos pays à nous d'intervention, les pays les plus pauvres, les pays en développement. Mm-hmm. Et puis la Colombie, on a aussi un autre bel enjeu depuis 2 ans, c'est qu'on est devenu un acteur de déminage accrédité. C'est-à-dire qu'on démine les territoires en Colombie, on a des équipes de démineurs qui sont composées de Colombiens et de Colombiennes que l'on forme pour justement apprendre à déminer et puis pouvoir libérer leur territoire.
C'est important que vous le dites aussi parce que la Convention appelait les nations à être solidaires, là, à s'entraider aux besoins. Est-ce que c'est un peu au nom du Canada que vous le faites?
Ah ben, le déminage, non, parce qu'en fait, on n'a pas encore réussi à obtenir de financement du Canada pour du déminage en Colombie. Par contre, l'assistance aux victimes, oui, on a eu un gros projet d'assistance aux victimes qui a été financé par le Canada de 2012 à 2016. Et puis, vous savez, les financements comme ça qui nous viennent des États, ils viennent. Hein, de temps en temps, on a des périodes sans financement. Là, c'est une période sans financement, mais j'ai bon espoir que le gouvernement canadien se remobilise pour la Colombie avec Handicap International.
Bon, voilà. Et c'est peut-être une des questions que vous pourrez soulever, même si on célèbre, j'oserais dire, une victoire, notamment du Canada. Mais vous êtes là aussi pour rappeler qu'il y a d'autres besoins là, pour stopper les bombardements.
Oui, il y a énormément de besoins parce que malheureusement, comme vous le dites, avec l'usage des bombardements en zone peuplée actuellement et les crises en Syrie, les crises au Yémen, en Irak, on a une recrudescence du nombre de victimes et ces victimes-là, que ce soit de mines antipersonnelles, de sous-munitions ou d'armes explosives, finalement, elles ont les mêmes besoins. Oui. Elles sont en situation de handicap, elles ont besoin des soins de réadaptation, des soins d'accompagnement psychosociaux, des soins d'insertion socio-économique aussi pour retrouver un boulot. Donc c'est les mêmes besoins et donc le travail est malheureusement pas prêt de se terminer vu la situation du monde actuellement.
Oui, non, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, cette campagne que vous menez nous le rappelle. Il n'y a pas seulement que les gouvernements qui doivent agir ou faire pression. Le public aussi est appelé. Vous proposez d'ailleurs de signer une pétition actuellement. Expliquez-nous ça en quelques instants.
Oui, cette pétition, c'est dans la suite logique de notre combat contre les mines antipersonnelles et les sous-munitions. C'est une pétition qu'on déploie dans plusieurs pays où intervient Handicap International et qui vise à être remise l'année prochaine aux Nations Unies pour demander l'arrêt des bombardements dans les zones peuplées. Donc très rapidement, actuellement, on voit des usages de bombes dans des villes et donc au-delà de faire des blessés, ça détruit aussi les hôpitaux, les écoles, les marchés, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est ce qu'on demande. C'est une pétition internationale et pour l'instant, on a recueilli 400 000 signatures. C'est pas des signatures canadiennes, c'est
une
signature internationale. Oui, mondiale. Et l'objectif est d'en recueillir 1 million pour pouvoir les remettre l'année prochaine aux Nations Unies.
Et on vous soutient là-dedans. Rappelons qu'il est possible d'aller signer cette pétition sur petition.handicap-international.ca. Je veux seulement dire aussi que dans la petite page d'à côté, on peut aller voir, continuer de suivre l'action d'Handicap International sur handicap-international.ca/fr. Jérôme Bobin, directeur d'Handicap International Canada, merci beaucoup.
Merci à vous et puis très belle célébration de la Journée des personnes handicapées aussi. Même.
Oui, il faut célébrer nos gains et ces gains-là, c'est grâce à vous, entre autres. Alors, merci encore.
Merci, à bientôt.
À bientôt.